Merci à tous d'être venus à cette table ronde en ce samedi après-midi. On a un petit peu de temps de retard, le temps de caler et de récupérer tout le monde. Tout le monde court un petit peu partout. C'est une table ronde assez exceptionnelle puisque nous avons la grande chance d'accueillir Robert Silverberg pour ses Utopiales 2015. Et c'est une table ronde qui est intitulée Time Opera, hommage à l'œuvre de Robert Silverberg. Alors l'idée, c'était pas simplement de faire un tête-à-tête, mais d'avoir un groupe d'auteurs, d'éditeurs, de traducteurs, spécialistes de Robert Silverberg. Et on va pouvoir se balader un petit peu dans son œuvre. Et puis... lui pourra aussi nous apporter plein d'infos, plein de souvenirs et réagir à tout ce qu'on dira de gentil sur lui. Il n'y aura que des choses gentilles. Je vais commencer les présentations avec ces dames. Je vais commencer par Karen Haber. Karen Haber qui est madame Robert Silverberg, mais qui est aussi auteur. Vous vous souvenez plutôt peut-être de son cycle Les Mutants, dont le premier tome, vous l'avez écrit ensemble, si je ne dis pas de bêtises. Donc, peut-être que vous pourrez nous parler de cette expérience d'écriture en commun, mais qui continue aussi à écrire. On a pas mal de choses inédites encore en français avec nous. À mes côtés, Jeanne Adeba. Jeanne, vous la connaissez pour des romans comme Plaggers, comme L'Héritière, ou bien encore La Vieille Anglaise et le Continent. Mais Jeanne est enseignante, elle est modératrice, et elle a plein de choses à nous raconter sur la science-fiction et la science-fiction de Robert Silverberg. Un petit mot ?
Notamment à mon éditeur, que c'est De Batz.
De Batz, évidemment. Voilà. Jeanne a De Batz.
Mais elle fait beaucoup de débats.
Ah, il ne marche pas. Si on peut m'apporter un petit boîtier, parce que pour bien suivre les échanges avec Robert Silverberg, on a la chance d'avoir des traducteurs qu'on salue qui sont là-haut. Et pour les entendre, vous traduire en français, et si vous êtes en français, et si vous êtes anglophone, donc en français, il vous faut des petits boîtiers derrière. Vous aviez un petit boîtier, c'est cool, juste le boîtier.
Mais je vais profiter de l'absence du modérateur pour dire quelque chose à propos de Robert Silverberg. Un de mes premiers romans de lecture... Tu m'as dit de dire quelque chose.
Non, du tout.
Bon, pardon, je me tais.
Je termine, mais après, ce sera toi en premier. Je termine ce tour de table avec Gérard Klein, tout d'abord. Gérard Klein, vous connaissez forcément sa collection éditeur chez Robert Laffont. C'est aussi un auteur avec Le Gambit des Étoiles, Le Seigneur de la Guerre. Mais il a édité parmi les plus grands romans peut-être de Robert Silverberg. Il va peut-être nous en parler. C'était l'un des premiers à pouvoir les éditer et nous les offrir en français. Pierre-Paul Duras-Tanty, qui est juste à côté de Robert Silverberg, traducteur de son état. Il a traduit notamment Voile vers Byzance. Il a fait aussi pas mal de révisions de traductions sur Robert Silverberg. Il va peut-être pouvoir nous parler aussi un petit peu de son style et de l'adaptation en français. Comment est-ce qu'on adapte ses romans? Et puis le dernier, Hugo Bellagamba, directeur artistique des Utopiales. Essayiste, enseignant, auteur lui-même, L'Origine des Victoires, Tancrède, L'École des Assassins, La Cité du Soleil, et puis plein d'autres choses qui pourra peut-être nous apporter aussi son éclairage. Peut-être une première question à tous nos intervenants, les romans ou ce qui vous a le plus marqué chez Robert Silverberg, et puis on lui demandera de réagir. Allez Jeanne, à toi.
Alors, si on m'avait posé la question il y a 15 jours, j'aurais dit « L'homme dans le labyrinthe ». Et puis, parce que c'est le roman dont je me souviens le mieux, qui, au niveau tripal, et puis en tant que professeur de lettres classiques, L'homme dans le labyrinthe, c'est juste le point. Mais en fait, il y a une de mes lectrices qui m'a dit, à propos d'un de mes romans, Plaggers, qui est paru chez La Talente, mais est-ce que tu as remarqué que la fin de Plaggers, ça ressemble quand même terriblement à la fin des Ailes de la Nuit? Alors, je ne peux pas répondre à cette question parce que je n'ai pas relu les Ailes de la Nuit, mais je me souviens très bien de ce roman, en fait. Mais je m'en souviens de façon sensuelle, je m'en souviens de façon... J'ai tout oublié de la narrativité, sauf qu'il y a un guerrier qui arrive, une jeune femme aux ailes membraneuses, et qu'ils sont amoureux ensemble. Je ne me souviens que de ça, du roman. Et je ne vois pas encore la scène que j'ai pu aspirer dans ma propre œuvre. Donc, a priori, il faut croire que l'œuvre de Robert Silverberg qui m'a le plus marqué, parce que j'ai tendance à croire mes lecteurs, ça doit être Les Ailes de la Nuit, finalement.
Je vais poser peut-être la même question. Alors, qui veut commencer ? Peut-être Gérard. Quel est pour toi le roman ?
Si tu veux bien, je vais commencer un peu plus tôt, parce que j'ai rencontré Robert Silverberg il y a vraiment longtemps, en 1965, à New York. Je n'étais pas, j'avais publié quelques livres, lui était déjà un écrivain célèbre. J'accompagnais à New York un industriel en tant qu'économiste, enfin aussi, bon bref, ça c'est pas le problème. Et il y a une gigantesque partie qui a été installée, qui a été organisée dans l'appartement de James Blish, où j'ai rencontré pour la première fois Robert Silverberg. J'étais extrêmement impressionné. Il y en avait quelques autres, hein, et pas des moindres, mais enfin, j'étais extrêmement impressionné. Et donc, dès que j'ai pu créer Ailleurs et Demain, j'ai souhaité qu'il trouve sa place dans cette collection. Alors, je dois dire qu'un des livres, il y a de nombreux livres de Bob qui m'ont impressionné, mais un de ceux qui continue à m'impressionner considérablement, c'est Les Monades Urbaines. Les Monades Urbaines, c'est un ouvrage extraordinaire. Puis on aura peut-être l'occasion de revenir sur cette période de fécondité extraordinaire qu'a été les années 60 pour Robert Silverberg.
Je vais poser peut-être la même question à Hugo. Allez, commençons.
Alors, Robert, thank you. Moi, pour moi, Robert Silverberg, c'est mon papa. Voilà, je l'ai dit. C'est mon papa littéraire, c'est mon papa de la science-fiction, c'est mon papa spirituel, parce que c'est l'auteur qui m'a le plus marqué quand j'étais tout petit, quand j'ai commencé à lire la science-fiction. Évidemment, il y avait Clifford Simak, évidemment, il y avait Van Vogt, évidemment, il y avait Heinlein, il y avait Asimov, il y avait tous ces grands auteurs, Bradbury et autres, mais mon papa, c'est Robert Silverberg, c'est ses romans qui m'ont transformé, qui ont montré que l'histoire et la science-fiction, c'était les deux faces d'une même pièce, et qu'il fallait arrêter de penser que la science-fiction, c'était le futur, et l'histoire, c'était le passé. Et puis, je ne vais pas citer tous les romans, évidemment, Robert, évidemment, mais il y en a un qui m'a beaucoup plu, qui est d'ailleurs peut-être pas un roman majeur à ses yeux, hein, qui est Les Déportés du Cambrien. Voilà, Les Déportés du Cambrien, qui est peut-être un roman, peut-être qu'il jugera pas essentiel. Bien sûr qu'il y a tous les grands romans, L'Homme dans le Labyrinthe, bien sûr. Mais c'est Déportés du Cambrien, l'idée d'une société politique qui déporte ses dissidents dans une période préhistorique où aucune forme de vie ne peut contribuer, soit à leur permettre de construire quelque chose, et de voir comment... Alors, c'est un texte qui a toute une histoire, tout un contexte, hein, évidemment, aussi. Mais c'est un texte qui m'a profondément marqué, et chaque fois que je le relis régulièrement, il a peut-être maintenant aujourd'hui une tonalité très différente, mais voilà, c'est vraiment Les Déportés du Cambrien que je voulais citer ce soir. Il y en a plein d'autres que j'aurais voulu citer, bien sûr, mais comme c'est le jeu, je cite celui-là. Merci.
On va peut-être demander à Robert Silverberg son regard sur Les Déportés du Cambrien.
Hawksbill Station is actually two different works. There's the original version, which takes place entirely a billion years in the past. And then when I made a novel out of it, I talked about a late 20th century revolutionary period that was sending the prisoners back on a one-way journey to the Cambrian. I'm not sure that I prefer the later version myself, but one of the finest compliments I ever received as a writer came from Willy Ley, the science writer who had been a hero of mine. And when Hawksbill Station was published in 1968, Willie said to me, "You made the Cambrian seem real to me." And I thought, oh, that's one of the best things anyone has ever said to me about my work. So I'll always be fond of that story because of the praise of that great science writer, Willie Ley. Also, some Canadian company is about to make a movie out of it. So we'll see it all again.
Et moi, j'avais lu la version en France qui avait été publiée chez J'ai lu. Donc, c'était la version du roman, bien sûr. C'est celle que, voilà, quand j'étais plus jeune.
Peut-être la même question pour Karen Haber. Alors, vous avez forcément un regard un petit peu différent, peut-être plus proche ou plus loin, selon. Quel est pour vous un peu le roman qui vous a marqué?
Well, the work that had the most impact, personal impact upon my life is the short story Capricorn Games. When I read the story, I was, I believe, 24, and I realized that the protagonist of the story was the same age I was.
And then born the same day, I believe.
Will you let me tell this? Had my exact birthday. Well, this was, of course, highly significant to me. So I began to pay a lot of attention to his writing, and a couple of years later, he was making a public appearance in the city where I lived. And so I went to meet him to ask him for his autograph, something I don't tend to do, and I have certainly learned the dangers of that now, because after I asked him for his autograph, he asked me out to dinner, and here we are 30 years later, married. So I would have to say Capricorn Games certainly had a profound effect upon my life. However, I would also... I would also like to say that my favorite novel is, of course, Dying Inside. I just love that book.
Gérard, si tu veux dire...
Oui, je veux dire un mot, plus qu'un mot d'ailleurs, à propos d'un roman, absolument, à mon avis, absolument essentiel de Robert Silverberg, qui est, on va sortir du champ de la science-fiction, excusez-moi, qui est Lord of Darkness, Le Seigneur des Ténèbres, qui est un immense livre et qui aurait dû avoir d'ailleurs un succès mondial colossal. Simplement, Bob a peut-être fait un choix d'écrivain qui n'était pas tout à fait adapté. Il écrit là un roman historique. Mais bizarrement, ce roman historique ne se passe pas dans une cour européenne avec toutes sortes de robes, de balles, de froufrous, mais il se passe au cœur le plus profond de l'Afrique. Je trouve que Bob s'est élevé là et a peut-être même dépassé Joseph Conrad avec son Au cœur des ténèbres. C'est un roman extraordinaire. Alors, une anecdote, je l'ai publié chez Lafon. Je ne peux pas dire que ça a été un immense succès. Mais Robert Louis, qui aimait autant que moi ce bouquin, 10 ans plus tard, a décidé de le rééditer. Et je ne peux pas dire que ça a été non plus un immense succès. Et pourtant, c'est un immense roman. Mettez la main dessus et lisez-le. Il est fondé sur le récit d'un marin anglais, un peu comme Robinson Crusoe l'a été en son temps. Mais il y a la création d'un univers africain de l'époque qui est, donc nous sommes au XVIe siècle, je crois, à peu près à l'époque élisabéthaine, et c'est un autre monde. C'est-à-dire l'écrivain de science-fiction qu'est Robert Silverberg réussit à projeter son héros dans une Afrique qui est à la fois tout à fait réaliste et qui est un autre monde. Je vous redis une deuxième fois, lisez-le.
Redonne-nous le titre.
Lord of Darkness en anglais, Le Seigneur des Ténèbres en français.
Est-ce que vous pouvez nous dire un mot dessus, Robert?
Yes, I have quite a lot to say about it. The Lord of Darkness was never a commercial success anywhere. When I told my publisher in the States, I want to do big novel about Africa in the 16th century, he said, why? And I said, because I want to do it. He said, it won't do well because you're a science fiction writer, and in the bookshops, they'll put it with the science fiction. The science fiction people will look at it and say, this isn't science fiction. The readers of novels about medieval Africa will never find it. Nobody will buy it. But I'll publish it. And he did publish it. And a number of other people have published it. Gerard, and I think Flammarion did it. And I'm happy to say, this may surprise you, I've just signed a contract for a new French edition with a new publishing company run by the grandson of Robert Laffont. You look amazed, yes.
Ah, attendez, par Laurent Laffont, non? Par qui? Quelle maison d'édition? Yeah. Hein? Laurent est le fils de Robert.
No, the grandson.
Ah, alors lâche. Et vous souvenez de quelle maison d'édition? Tu te souviens?
No, this was very...
Ça n'a pas d'importance. Mais la première édition en français n'a pas été chez Flammarion, mais bien chez Robert Laffont.
Oh, I know that. And then Flammarion did it again.
Alors, on l'a refait en coédition sous l'impulsion de Robert Louis.
With Chambon.
Jacques Chambon, pardon. C'était Jacques Chambon, ce n'est pas Robert Louis, je les confonds un peu.
And now it's coming around again, and the young Laffont told me the same thing, that I love this book, I must publish it. Well, I never quarrel with that. So it's coming around again. It's a book very close to my heart. It was extremely difficult to write. It's the longest book I've ever written, and it required a colossal amount of research. It's 800 pages, something like that. And it was an ordeal to write, but I loved every minute of it. And you published it, and I was grateful for that. I want to talk for a moment about Gérard, because it'll put me into some perspective as I sit here, the subject of all of this admiration. Yes, we've known each other 50 years, and when his beautiful series of books began at Laffont, I think this was in 1970, something like that.
69,
yes. And I saw the books. I saw a book by John Brunner, who was my exact contemporary, and we were following similar career paths for a while. And I looked at it with envy and desire. And I said, I hope someday Gérard will publish a book of mine. Because I was a well-known, an established writer, but I was not Robert Silverberg. I was a young writer with ambitions and hopes. And one of them was that perhaps Gérard will publish a book of mine. Well, he published all of them. And that worked out very well.
On a quand même la chance d'avoir l'auteur et l'éditeur 50 ans de relations littéraires sur cette table ronde. C'est quand même beau.
Ce que je peux dire, c'est que quand Robert Laffont, donc en 69, m'a confié la collection à laquelle j'ai donné le titre Ailleurs et Demain, j'avais fait une première liste de 10 titres à peu près, et Robert était dedans.
Je vais me tourner vers celui qui n'a pas encore parlé, c'est Pierre-Paul Duras-Tanty, et je vais lui demander, puisque Pierre-Paul, il a traduit les livres de Robert Silverberg, tu as travaillé sur les traductions, est-ce que c'est facile à traduire un livre de Robert Silverberg, et qu'est-ce qui t'a le plus marqué là-dedans?
Alors si je te dis oui, tu vas moins me payer la prochaine fois que je bosserai pour toi, donc je vais te dire que non. Non, c'est assez facile de traduire Robert Silverberg parce que Robert Silverberg écrit bien. Robert Silverberg écrit à l'européenne plus qu'à l'américaine. Robert Silverberg ne fait pas des répétitions lassantes qu'il faut sans cesse couper comme dans la plupart des textes américains. Robert Silverberg est capable d'utiliser une palette de vocabulaire dont la plupart des auteurs anglo-saxons ne pourraient que rêver. Donc ça demande certes du travail, mais on peut par exemple garder à peu près la structure de la phrase originale et que ça soit quand même élégant en français. Donc c'est beaucoup plus facile de calquer l'élégance que de calquer la vulgarité ou simplement la médiocrité. Donc à ce niveau-là, oui, c'est facile. Ensuite, moi, j'ai pas traduit énormément de Robert Silverberg. J'ai traduit, je sais pas, l'équivalent d'un recueil de nouvelles environ, et j'ai travaillé sur l'équivalent de deux ou trois recueils de nouvelles où j'ai là eu à retravailler des vieilles traductions, parfois médiocres ou simplement datées. Et là, c'est toujours un peu plus compliqué parce qu'on intervient sur le matériau de quelqu'un d'autre. Donc on fait ce qu'on peut. On a fait tout ce qu'on a pu avec Jacques Chambon et Hélène Collomb qui étaient les vrais pilotes de ce projet, et surtout Jacques, quoi, qui était vraiment le grand timonier du projet en question chez Flammarion, où il y a eu trois gros recueils. Son décès l'ayant empêché de réaliser le quatrième, j'ai réussi à faire réaliser le quatrième par la suite chez Gélu, pour finir le travail qui avait été commencé par Jacques. Mais à ce niveau-là, oui. D'ailleurs, je tiens à signaler, je suis ravi que Gérard ait parlé du Seigneur des Ténèbres, qui est aussi un de mes romans préférés. Et c'est un exploit de traducteur, enfin de traductrice, parce que si je me souviens bien, c'est Nathalie Zimmermann qui l'avait traduit. Et c'est écrit en anglais de l'époque. C'est écrit en anglais du XVIe siècle, en grande partie. Enfin, une approximation de l'anglais du XVIe siècle. Et elle a rendu ça en français de la même période. Je pense honnêtement qu'elle n'a pas dû dormir beaucoup pendant un an. Mais c'est
J'espère bien.
c'est une des meilleures traductions que j'ai jamais lues. Et ça enrichit encore le livre, qui du coup a l'air d'être une très très belle œuvre française qui se trouve être signée par un jeune auteur américain assis à mes côtés. Voilà.
Une petite question, Robert Sureberg, sur vos relations avec les traducteurs, tous ceux qui vous ont traduit un petit peu dans le monde entier. Est-ce que vous avez beaucoup travaillé avec eux? Quel regard vous portez sur ça?
Well, I don't always have contact with my translators. I have a lot of stories to tell, though. Pierre Paul amused me by saying that the elegance of my style can be carried over into French. Yes, I work hard at my style, and I think it's a good style. I think I'm a good writer, but I don't speak French, but I can read it slowly and with difficulty. And whenever I get a book of mine in French, I look at it with great admiration, thinking, what an elegant writer this is. I sound, to me, so much more elegant in French than I am in English. Because, of course, French is a very different language with a different tone, and to my Anglophone ear, a very beautiful alien language, really. The foreign language I'm most familiar with is Italian, but and Italian is a beautiful language also, but not that remote from English. I saw you wink at Signor Billigambo over there, yes. But French, the sound of French is so different to my ears from any language that I really understand. That's why I don't speak French. The pronunciation, the rhythm, I never studied it, it's too late now. As for my relationship with translators, Jacques Chambon, my dear late friend, once called me from France. He was translating a story of mine, a short story, and I'm very surprised to get a call. This was 40 years ago when a transatlantic telephone call was extremely expensive. And he said, I'm translating your story, and there's a word I don't understand, and I want you to help me. And I said, Jacques, I made that word up. You can translate it any way you want. It's not in the language. Then another book, and this was one of the Lafont books, I believe. It was Shadrach in the Furnace. Gerard bought the book, and years went by, and the book didn't appear. And I thought, something has gone wrong here. It was given to a translator who translated it into Canadian. And that didn't work very well. So then it was given to Robert Louis, another dear friend of mine who's gone. And Robert, a lot of Shadrach involves carpentry. I think that's the carpentry book. I'm starting to forget my own books. And Robert, in order to translate the book properly, learned carpentry. So it was a long time before that one appeared. Then there are countries, Turkey and Estonia and Greece. I have no idea what my translations are like. I hope they're good.
Peut-être une réaction sur Shadrach?
Ah ben c'est un bouquin que j'aime énormément et sauf erreur de ma part, je ne sais plus exactement quand Robert l'a écrit et publié, mais il fait partie justement de cette période de très grande fécondité, celle des années 60, où, si je peux le dire, Robert n'a pas obtenu, même aux États-Unis, tout à fait. Il était très fameux, il était très célèbre, mais il n'a pas obtenu les prix et la distinction enfin, qu'il pouvait tout à fait légitimement attendre. Et je crois, j'espère ne pas le blesser en le disant, qu'il en a ressenti à l'époque une certaine amertume. Mais enfin, ces années 60, la suite est fabuleuse aussi, c'est pas, je ne veux pas centrer sur les années 60, mais ces années 60, il y a le, comment s'appelle, The Book of the Skull, bon, il y a Shadrach, si je me souviens, le Livre des Crânes, enfin, je crois que les monades urbaines doivent se situer à peu près par là aussi, enfin, il y a une production fabuleuse, hein. Alors, la seule chose qu'on peut, il aurait dû avoir 3 ou 4 prix Hugo, mais la seule chose qu'on peut dire, c'est qu'à cette époque-là, ce n'est plus tout à fait le cas aujourd'hui, les compétiteurs étaient terrifiants, qualité. Ursula Le Guin, enfin, etc. Enfin, je pense néanmoins que non seulement Robert aurait dû avoir au moins un Hugo, un Nebula, je ne sais pas, tout ce qui existait à l'époque, mais en plus quelque chose comme le Pulitzer.
Well, I didn't want the Pulitzer, but I did want more Hugos and Nebulas than I got. I got plenty of them. I got half a dozen of each. But I was often disappointed by the reaction of the readers to these books, and yes, I did feel bitter about it. But this was entirely an American phenomenon. These awards were given in the States, and as each book came out and something else won the award, I thought, you want me to do better? I can't do any better. This is the best I can do. And if that's not good enough for you, maybe I shouldn't write at all. But at the same time, all those books were being published in France and still are. Every one of my books has remained in print in France since Gérard published the first edition, over and over. Today I signed maybe 5 different editions of The World Inside. One reason that I love France and come here so frequently and have come twice to this is that I feel, and this may sound like flattery, but it's the simple truth, that you understand what I'm doing and that you always have. I don't always feel that way in the States. On the other hand, I'm old and rich and famous and I have awards and I have nothing to complain about.
Peut-être une question sur l'influence que vous avez eue. Hugo disait que vous étiez un petit peu son père en science-fiction. Jeanne parlait d'œuvres qui l'ont profondément marqué. Est-ce que vous ressentez, vous, cette influence sur les autres écrivains plus jeunes? Est-ce que vous la mesurez? Est-ce que c'est concret pour vous?
I don't read a lot of the younger writers. They come up to me and they say, oh, Mr. Silverberg, and they're trembling and they tell me this and that. So I assume they've read me. I want to put some of this homage into perspective here about my relationship to younger writers and my disappointment over awards and all of that. I went to a science fiction convention when I was 18 years old. I hadn't had anything published then. And you see me as an old man, but try to think, I was 18 years old once, just the way you were. And at this convention, I stood at the side of the hotel lobby of this gigantic hotel where the convention was taking place. And I watched 5 men walk together from one side of the lobby to the other. Now, these names may not mean much to you, but they meant a great deal to me. It was James Blish, Theodore Sturgeon, L. Sprague de Camp, Willie Ley, and the very young Robert Sheckley, who was 7 years older than I was at that time. I'm 18, and I'm in total awe of these men, especially Sheckley, thinking, oh, if I could only grow up to be like Sheckley, that is to say, being published everywhere and walking arm in arm with Blish, De Camp, Ley, and Sturgeon. Well, of course, I did grow up, and they all became my friends. And in fact, I learned that I didn't want to grow up to be Sheckley because he didn't have a really happy life. But he had a great career, mostly at the beginning. I have never forgotten being that 18-year-old boy looking at the great men. So when somebody comes up to me trembling, oh, Mr. Silverberg, what an honor, etc. Yes, of course, I wrote a lot of good stuff, and I've had a long career, and I have no illusions about my achievement. I did something big. But I remember being that boy. I remember looking at Girard's early book saying, I hope he publishes something of mine. You don't get born famous. And when you're not famous, you know what the other side of it is like.
Une petite question alors. On a vu ce que c'était d'être écrivain avec l'influence de Robert Silverberg. Karen Haber, c'est comment d'écrire avec Robert Silverberg sur ce premier tome que vous avez fait ensemble?
In terms of his influence or...
Simplement en termes de travail, comment est-ce que vous avez fait ensemble?
Oh, I would write a draft and then he would tear it apart and then I would write another draft and then he would tear that one apart and it was a really interesting experience with someone to whom I was married. And ultimately, there was a successful draft, thank God, for both the book and the marriage.
What I said was, I'm not going to be gentle. You won't learn anything from that. It was her first book. And there's no point in my telling you lies. I will treat this book as though it's a stranger's book, and I'll mark up everything that you shouldn't have done. And she learned a great deal from it, as you can see if you read the four books and see how they get stronger as the series goes along.
He taught me how to write. I had a journalism background, and I learned from him, and I don't know if every marriage could stand it, but it certainly gave us something to talk about all the time. And I think it also taught me to have a very thick skin when it comes to criticism. But don't try this at home.
Hugo, pour toi, quelles sont les grandes thématiques qui traversent l'œuvre de Robert Silverberg?
Alors, merci, parce que justement, j'allais te demander de me laisser poser cette question-là. Alors, pas sur les grandes thématiques, mais moi, je parle souvent de l'œuvre de Robert Silverberg quand j'ai l'occasion de faire des interventions sur la science-fiction, que ce soit en direction des classes ou que ce soit dans un milieu peut-être plus universitaire, où je vais faire des conférences sur l'Uchronie ou sur la science-fiction ou sur le rôle pédagogique de la science-fiction, etc. Et souvent, je parle bien sûr de la place de l'histoire dans l'œuvre de Robert. De la manière dont lui justement a pensé le travail sur l'histoire, le travail sur le substrat culturel, la manière dont la science-fiction transforme les éléments culturels pour les projeter dans un futur ou dans l'imaginaire, et puis l'Uchronie bien sûr, mais loin de moi le fait de dire que l'œuvre de Robert se résume ou se centre sur l'Uchronie, elle est bien plus large que ça. On parlait du Seigneur des Ténèbres, on peut parler de Gilgamesh aussi évidemment. Mais il y avait quelque chose que j'aurais bien aimé savoir, j'ai l'occasion de le lui demander là ce soir devant tout le monde comme ça. C'est souvent, moi, quand je parle de Robert, ou soit de ma passion, soit de mon regard sur l'œuvre de Robert Silverberg, je dis que c'est le maître du time opéra. Parce qu'on a vu souvent cette expression time opera par rapport au space opera. Alors, on sait bien que le mot space opera a à la fois sa connotation, à la fois péjorative et parfois au contraire extrêmement noble dans l'autre sens du terme. Et donc ce terme de time opera, est-ce que Robert le reconnaît, le prend pour tel? Sachant que moi, quand je l'emploie plutôt dans un sens non pas justement de space opera, de roman rapidement écrit, ouais, mais au contraire, comme le fait que la science-fiction est capable d'investir le temps, comme si le temps était une dimension de l'espace, effectivement, et faire du temps la clé même de son processus. Alors, est-ce que... l'émotion me coupe la voix. Je m'étouffe à force. Est-ce que le terme de time opera, questo termine finalmente, Robert, est-ce que lo prendi per te o no, questo terme de time opera?
I think the phrase time opera is Monsieur Durastanti's doing. I believe you hung that on my Belle Isle book. And I was amused. It's a variation on space opera, but of course space opera is pejorative and time opera means only what Pierre Paul wants it to mean. Just as H.G. Wells wrote a novel called The Time Machine and Chris Priest wrote one called The Space Machine, we play with these things. As for my themes, you know more about them than I do. Because I don't think about my themes. I think about a particular story. About 30 years ago, an academic professor wrote a book about me and discussed my themes. And whenever some publisher asked me for a story, I would take the book down and see what my themes were. And then I'd pick one from his book. These are my themes. I'll write this one now. Just as someone asked me earlier, how did you develop your style? I said, I didn't develop my style. The style is the way I write, and also the way I speak. And when I write, that is my style. When I write a book about a certain theme, that's one of my themes.
Oui, en fait, parmi les thèmes dont on a abordé déjà, dont on a parlé ici aux Utopiales, il y avait le thème de la justice, notamment le thème des sociétés. Pour moi, ton œuvre, Robert, reflète bien ça, c'est-à-dire vraiment le fait que la science-fiction est capable de penser les sociétés différentes, de penser les sociétés dans leurs règles d'organisation. Et évidemment, moi, en tant qu'historien du droit, c'est un thème très fort que je vois, le thème de la justice, de l'organisation même des sociétés. Du rapport entre la culture et les sociétés. Et puis, ben, merci à Pierre-Paul d'avoir inventé le thème de Time Opera.
Non, je ne l'ai pas inventé, ah, je l'ai repris. J'ai simplement apposé sur un petit omnibus où il y avait deux romans de Bob, dont Les Temps Parallèles, qui est effectivement un petit chef-d'œuvre, un petit chef-d'œuvre du Time Opera, un roman jouissif, amusant, paillard, où un type réussit à faire l'amour avec à peu près toute sa lignée antérieure. Et c'est passe à Byzance, qui est une des fascinations de Bob. Donc oui, je ne revendique pas du tout le terme. J'ai simplement marié Bob avec ce terme. On le marie souvent à d'autres personnes. Là, voilà, j'ai juste marié avec un terme.
Est-ce que sur les thématiques, tu es d'accord avec Hugo ou est-ce que tu en ajouterais ?
Il me semble que s'il y a une thématique qui est dominante chez Bob, c'est pas une thématique, c'est une façon de voir le monde. Et Robert Silverberg a une façon cultivée de voir le monde. Il a une culture extraordinaire, c'est un très très grand voyageur. Il a parcouru le monde entier, il est allé sur tous les continents. Il voyage encore beaucoup, peut-être un peu moins maintenant, mais jusqu'à une date vraiment récente, il voyageait vraiment beaucoup. Après tout, là, il est quand même à 9000 km de chez lui, simplement pour venir nous voir. Il a la passion de rencontrer les gens. Quand il va au Mexique, il en ramène une nouvelle hommage à Philippe K. Dick, qui se situe dans une espèce de cité du Yucatan. Quand il va en Israël, il écrit « Mille pas le long de la Via Dolorosa », qui est une espèce de revisitation de la passion du Christ sous une forme de fantastique. Quand il va en Espagne, il ramène une histoire sur la fontaine de Jouvence, etc., 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 etc. Et donc, c'est cet ensemble d'expériences du monde qu'il a eu, la culture énorme qu'il a acquise en lisant, culture qui n'est certainement pas nourrie que de science-fiction, puisqu'il est féru de théâtre antique, de théâtre élisabétain, de Shakespeare, de la Bible, de divers textes sacrés, de mysticisme, de romans naturalistes, de romans du 19e siècle, etc. Tout ça se mélange, infuse, passe par son espèce de tamis absolument unique pour donner quelque chose qui est l'œuvre la plus cultivée de la science-fiction moderne et qui réussit à être ambitieuse sans jamais, jamais, jamais être prétentieuse. Et ça, c'est unique. Voilà.
Bravo, pas mieux. Magnifique.
un petit mot de Gérard, et puis après, on laissera peut-être Robert réagir.
Ce que je voulais dire, plutôt qu'un thème, il me semble que dans l'œuvre de Robert Silverberg, il y a une figure qui revient de façon insistante. C'est celle de l'étranger ou du voyageur qui cherche à trouver ou à retrouver sa place dans une société qui n'est pas toujours facile. C'est parfaitement net dans Laure Valentin, mais ça apparaît dans un très grand nombre d'autres textes. L'homme dans le labyrinthe, c'est celui qui est exclu, enfin par définition. Shadrach, c'est celui qui essaye dans un monde atroce de maintenir une position éthique, celle du médecin, enfin ainsi de suite. Donc cette figure de l'étranger, pas au sens de Camus, dans un sens très différent, celui qui essaye de retrouver ou de trouver ce qui pourrait être sa place et qui, à mon sentiment, d'une certaine manière, n'y parvient jamais.
D'ailleurs, le roman le plus récent d'Robert Silverberg et le dernier chronologiquement qu'il a publié s'appelle « Le long chemin du retour ». C'est exactement ça. C'est à nouveau quelqu'un qui se retrouve exilé loin de chez lui et qui doit retourner, qui doit regagner... retourner sur ses pas, traverser une planète entière en proie à la guerre et à un ensemble de catastrophes. Et effectivement, cette espèce de figure qui revient sur ses pas, mais qui n'oublie jamais, tout en revenant sur ses pas, de regarder droit devant elle. Et ça, c'est aussi tout à fait effectivement emblématique, tu l'as parfaitement résumé, de l'œuvre de Bob.
Peut-être une petite réaction face à tout ce qui s'est dit.
Well, they said so much. Come back to themes. When I create a story, I don't start by thinking I'm going to write a story about justice. I'm going to write a story about a world that has an unusual system of justice and a character who is caught in this system of justice. I think story first. And of course, in science fiction, you have to think situation also. For the writer of mainstream fiction, the world is already there. It's a given. It's not for us. So we have a double task. And the science fiction story has to have a double resolution, the conflict of the character and the particular science fiction situation, as, for example, in To See the Invisible Man that I've been talking about all weekend somehow. As for the way of looking at the world, it's a big, wonderful world. It's the only one we have. And I was born in New York City, which is one of the most exciting cities on the planet. And I've been traveling all my life. I first came to France in 1957, and the first thing I noticed in France at the airport, the lampposts, the posts on which the lamps were different from those in America. I thought, yes, I'm in a foreign country now. Well, that's a boy's observation, but as I travel around the world, I look at the lampposts, I eat the food, I talk to the people where I can, I listen, and then I give it back in the fiction. Even Lord of Darkness, I was never in that part of Africa, but I've been in Africa, and I used that. You use whatever you can. You use the material within your reach, and if you're a serious enough writer, you keep extending your reach until finally you're holding too much, and then you start dropping things. But that's good. Man's reach, the poet said, should exceed his grasp. And certainly mine does.
Jeanne, une réaction.
Oui, alors, je voudrais réagir sur quelque chose. Hugo disait tout à l'heure que Robert Silverberg avait été son père. Et moi, ça ne peut pas être mon père parce que ce qu'il m'a appris, c'est des choses que les pères n'apprennent pas à leurs filles. Donc, non. Une partie de ce que Silverberg m'a appris, c'est la façon de traiter la sensualité dans la littérature. Je pense notamment à un roman qui m'a énormément marqué, maintenant que j'y pense, c'est Un jeu cruel. Et dans Un jeu cruel, il y a un personnage de fille qui a eu 100 enfants et qui essaye, 100 enfants, pardon, et qui essaye de les récupérer. Et pendant tout le roman, alors qu'elle vit une histoire extraordinaire avec un homme extraordinaire, son obsession, c'est de récupérer certains de ses mômes. Et je n'ai jamais compris pourquoi. Quel était l'intérêt de récupérer ses gamins ? Alors que elle était avec le premier homme qui revenait d'une autre galaxie, qu'elle pouvait accéder à une conscience différente. Et moi, tout ce qui m'intéressait, c'était ça. Est-ce que transmettait Silverberg là-dedans, mais également dans tous ses autres romans, il y a une forme d'accès au sens dans Silverberg que je n'ai jamais retrouvé ailleurs, pas même chez un de mes autres chouchous qui est Heinlein, qui lui était beaucoup plus pragmatique, on va dire, avec ces choses-là. C'est grâce à Robert que j'ai appris qu'on pouvait parler de sexe, ne pas le montrer et ne pas faire de métaphores. Et merci pour ça.
Je suis obligé de vous faire réagir sur la sensualité.
Surely you don't want me to explain why my characters do the things they do.
I know that. You know.
Il va nous rester 5 minutes. On a la chance d'avoir Robert Silverberg. Est-ce que quelqu'un a une question à poser dans le public? Hop. Profitez-en, ne soyez pas intimidés. Si vous êtes un peu intimidés. Oui, mademoiselle.
Bonjour et merci de votre présence. En tant qu'auteur de nombreux livres, quel est celui qui vous est particulièrement, qui vous affecte particulièrement, que pas obligatoirement votre préféré, mais celui qui vous a le plus touché en l'écrivant?
Well, I've written a lot of books. I spoke of Lord of Darkness, which was perhaps the most intense writing experience I've ever had. Dying Inside, L'Oreille in 10. I think I was closer to the human beings in that book than in any other that I've written, and it has affected people greatly. And Fiston, Son of Man, a surrealist adventure, a book that I literally dreamed every night, and I'd wake up in the morning and transcribe my dreams, and one day I realized it's over, and I was very sad to know that I have nothing left, no place to go beyond this chapter in that book. So those three I would put at the top of a very long list.
Dying Inside, parce que le public ne sait pas forcément, en français, c'est paru d'abord sous le titre L'oreille interne.
Est-ce que quelqu'un a encore une question ? Question ? Oui, monsieur là-bas, si vous pouvez relever la main, qu'on vous voit bien. Est-ce que je peux vous demander juste de vous lever, qu'on vous voit ? Merci.
Oui, bonsoir. Je voulais savoir si monsieur Silverberg avait un ouvrage en préparation qui allait bientôt sortir.
Well, that's the big question that we have gone all around. No. No, I'm 80 years old. I don't want to work anymore. And very calmly and with a clear and happy mind, I have stopped writing fiction. But I think I wrote enough. There's nobody here, including me, who has read everything I've written. So, no, I have nothing planned and no intentions. I am always alive to the possibility that a story will demand being written, but I hope not. I'd like to enjoy my very old age without labor.
Allez, peut-être une dernière question. Oui, monsieur là-bas. Oui, bon.
Oui, bonjour. Je voulais juste savoir ce qui le motivait en fait à venir ici.
Why am I here? It's France. I have a good bottle of wine every night. I'm among friends. Some of them are very old friends. There's one sitting down there, Monsieur Spinrad. There's Gerard. There are people I've known for a long time. I like it here. And I'm sitting up here and you're all telling me how wonderful I am. This shouldn't be hard to understand.
Vous reviendrez l'année prochaine.
I plan well in advance. And next year I'll be in Tuscany. I'm sorry. They have good wine there too.
On va remercier Robert Silverberg, remercier nos intervenants et merci à vous et puis vraiment applaudissez très fort. Merci.